Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un immense plaisir de retrouver Michel Cotta, Catherine Nagérard-Carrérou et Charles Villeneuve. Bonjour à vous quatre.
Bonjour Pierre.
Au sommaire de cette émission, la France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultation. Réaction épidermique à la suite de la perte par la France d'un contrat de près de 60 milliards de dollars avec l'Australie pour la construction de sous-marins nucléaires. Et ce pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Drian, un coup dans le dos diplomatique. Un nouveau partenariat entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie rebat toutes les cartes de la diplomatie mondiale. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine? C'est le premier sujet de discussion ce matin. Éric Zemmour, candidat au débat. Voilà ce qui ressort de son meeting hier soir à Toulon. Crédité de 7 à 8% dans les sondages, il continue de faire turbuler la course à la présidentielle. Quel impact sur les scores de Marine Le Pen? Quel impact sur les scores des autres candidats? Quelle chance s'il finissait par se présenter? Nous l'évoquerons. Et puis nous reviendrons sur les conclusions du Beauvau de la sécurité. Ce mardi 14 à Roubaix, le président Macron a annoncé toute une série de mesures pour permettre à la police, la gendarmerie de prendre le virage du service rendu aux citoyens. Nous en parlons dans la deuxième partie de l'émission. Voilà le programme, les grandes voix, c'est parti. Mais avant de développer tous ces titres, les grandes voix, une réaction de votre part à la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Il avait 84 ans, on ne le voyait plus depuis 2019, il restait dans sa résidence médicalisée après avoir été chassé du pouvoir. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour les Algériens de ne plus avoir Boutef, comme on l'appelait?
Pas grand-chose sûrement,
Gérard Carrérou.
Pour l'instant pas grand-chose, mais ce que je dirais dans deux mots, ça avait été un assez bon ministre des Affaires étrangères pendant 14 ans. Après, il avait été 20 ans à bourlinguer un peu partout dans les pays arabes. Il est revenu comme président. Ça n'a pas été un bon président. Le niveau de vie du peuple algérien ne s'est pas amélioré pendant ces 20 années. On y ajoute la corruption et le népotisme. Et ça donne le bilan de M. Bouteflika, paix à ses cendres.
Moi, je voulais dire à peu près la même
Michel
chose.
Michel Cotta.
Je voulais dire à peu près la même chose. Je l'ai connu comme ministre des Affaires étrangères. C'est le plus jeune ministre.
Moi aussi, j'ai des fait Affaires un club étrangères, de la presse ici.
Voilà. Donc, au contraire, d'une manière très surprenante, enfin, pour nous, très surprenante, au courant vraiment de la marche du monde. Et il était absolument étincelant quand il était jeune. Et puis, progressivement, son retour au pouvoir, c'est quand même, en effet, accompagné de pas mal de concussion et surtout cette façon de s'accrocher au pouvoir au-delà du raisonnable et toujours frappe toujours d'ailleurs les leaders de ce genre, mais c'est dommage.
Voilà,
il aurait pu partir bien.
En 2019, c'est la rue qui l'a fait partir alors qu'il avait eu un AVC en 2013 et qu'on ne l'a plus jamais revu. Les Algériens ne l'ont plus revu. Alors, est-ce que c'était lui qui voulait rester au pouvoir ou la famille pour conserver tous les corrupts? Enfin, je veux dire, c'est quand même...
Tous les privilèges
et tout ça, d'enrichissement que maintenant l'on sait. D'ailleurs, sa famille, son frère est en prison. J'avais été l'interviewé avec Jean-Pierre Elkabbach à Alger, et même avant son AVC, alors que on voyait qu'il était, il gardait une beaucoup de vivacité intellectuelle, et il était obsédé par la France. Car il ne supportait pas que Jacques Chirac soit ami avec le roi du Maroc. Et ça, il nous en avait parlé pendant une heure, c'était sa seule obsession. Et moi, j'avais parlé des jeunes qui, le soir, étaient dans la rue et qui traînaient. Les cafés, pendant un temps, avaient été fermés. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette jeunesse pour laquelle ils ne faisaient rien? Et longtemps, quand il y avait des problèmes et que les jeunes se rebellaient parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, on leur donnait un peu d'argent. Et puis après, ça repartait. On n'a rien fait pour eux.
Charles Villeneuve.
Moi, je vais vous raconter une anecdote, justement, concernant Jacques Chirac, président de la République, qui recherchait à tout prix un accord quasiment de paix et d'amitié avec le président de la République algérienne, notamment Bouteflika. Il avait envoyé son Sherpa, c'est-à-dire son conseiller diplomatique, Maurice Gourdeau-Montagne, qui, pendant 8 mois, a cherché à établir cet accord. Et ça s'est terminé, finalement, par cette phrase de Bouteflika: qui sera la monture et qui sera le cavalier? Et donc ça s'est arrêté là, il n'y a jamais eu d'accord, même si les diplomates français, ceux qui connaissent bien cette région bien sûr, savent que et l'Allemagne et l'Algérie sont les deux pays pour qui la France doit surveiller en quelque sorte les relations diplomatiques comme la prunelle de ses yeux.
Voilà donc pour vos réactions à la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Venons-en à cette perte du contrat de Naval Group. Dernière information et de taille sur le sujet explosif des sous-marins français, c'est que la France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis, en Australie, pour consultation. Philippe Etienne, l'ambassadeur à Washington, n'a pas déménagé sa colère cette semaine. Ce dernier épisode ne fait qu'accroître l'importance de ce dossier, t'imagines ?
Oui, non, mais les relations diplomatiques ne sont pas rompues quand on rappelle les ambassadeurs.
Pour consultation. Ils n'ont pas fait leur valise et ils ne sont pas rentrés à Paris.
On les renverra, on attendra de toute façon des explications des Américains et des Australiens. Mais ce qui l'est rompu, c'est la confiance. Indéniablement, elle l'est.
Jean-Yves Le Drian l'a dit. Hein.
Parce que la désinvolture avec laquelle les États-Unis notamment ont traité la France, c'est la désinvolture qu'on met dans ses rapports avec les laquais. Bon, parce que finalement, les Américains ne considèrent les alliés que comme des vassaux. Et la France est peut-être le moins vassal, si vous voulez, de tous, peut-être parce qu'elle a des intérêts très importants et stratégiques, on y reviendra, dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique qui est dans une ambiance extrêmement électrique, parce qu'en moins de 20 ans, il faut le signaler, la Chine a augmenté ses dépenses militaires de 423%. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Australie a pris peur, d'ailleurs, et a demandé aux Français 12 sous-marins à propulsion classique transformés en 8 sous-marins à propulsion nucléaire par les Américains.
Catherine ?
Oui, la France ne rappelle pas l'ambassadeur britannique.
Oui, on sait pourquoi ?
Parce qu'on le tient pour quantité, je veux. Négligeable.
Ah, non, mais parce que.
Oui, mais parce que nous avons aussi. J'ajoute une information qui est quand même importante. Avec les Britanniques, nous avons les accords de défense Lancaster House. Qui comprend évidemment un échange sur nos forces de dissuasion
respectives. Est-ce qu'ils sont compromis,
non,
du coup, vu
non,
ce triumvirat Canberra-Washington-Londres ?
Non, pour l'instant, c'est un cartel anglo-saxon pour la zone la plus stratégique dans les siècles à venir, c'est évident, sûr. Où nous avons des intérêts territoriaux très importants, la France, mais avec l'Angleterre, ça touche au nucléaire, les accords de défense, et même le Brexit ne les a pas écorchés.
Gérard Carrérou.
Moi, je voudrais simplement m'étonner d'un certain étonnement. Je vois effectivement les réactions un peu d'une forme de vexation de la France. Je peux les comprendre. C'est vrai que c'est jamais agréable d'apprendre un peu par la presse ou soi-disant par... Ça, je ne sais pas la vérité si ça a été dit autrement, s'il y a eu un canal de communication. Les Américains disent que oui, les Français disent que non. En tout cas, c'est jamais
agréable. Les Américains disent que les Français étaient prévenus.
Une rupture de contrat non prévue comme ça, c'est jamais agréable. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, au-delà du fond sur lequel on reviendra, et Charles a commencé à parler du fond, c'est-à-dire de changement de stratégie, je dirais, planétaire, ce qui m'étonne, c'est la confiance imbécile d'un certain nombre de nos progressistes qui pensaient tout naïvement que formidable, après, ils avaient déjà eu à peu près la même attitude au moment de l'élection d'Obama, et qui pensait naïvement que la présence d'un ami démocrate, parce qu'il est démocrate. Alors les démocrates, pour la gauche française, c'est toujours des amis.
C'est exactement ça.
Et alors, on s'était dit, en plus, alors formidable, il a choisi des gens qui parlent français autour de lui. Oui. Il a son secrétaire d'État, il a Blinken, tout ça, ces gens-là connaissent bien la France, ils ont été élevés en partie. Enfin, avec eux, ça va baigner. Eh ben oui, ça baigne. On l'a vu ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a pris la baigne. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Américains ont décidé à un moment donné, mais s'il y a eu un glissement de Obama à Trump jusqu'à Biden, ont décidé que l'intérêt fondamental de l'Amérique, c'est ça qui compte pour eux, c'était de regarder vers la Chine et de voir comment se préoccuper de la menace chinoise. Et à partir de là, ils ont jugé plus utile de former ce bloc avec l'Australie, l'Angleterre et éventuellement peut-être dans un deuxième temps d'autres pays. Mais c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est qu'on s'est laissé avoir. On aurait dû être informé. Je pense que notre diplomatie a failli. On aurait dû savoir quand même.
On va trouver la faille, finir par la trouver, Michel Cotta.
Non, puisqu'on est, quand même là sur la Chine, déjà arrivé à la Chine et au péril chinois tel qu'il est ressenti par les Américains. Moi, je voulais dire simplement pour les Américains, premier point, Biden, effectivement, tu as raison. On se prend maintenant, on va se prendre à regretter.
Trump, on est d'accord, mais on va dire un peu jusque-là.
Mais évidemment, il a quand même, faut pas oublier, il a à faire oublier sa défaite en Afghanistan et la défaite des troupes et le retrait, comme ça, d'accord, erratique de ses troupes. Premier point. Deuxième point, c'est sûr que son intérêt est maintenant d'attirer, de changer la guerre froide et de faire la guerre froide contre la Chine. Dans ce cas-là, si localement la France a perdu son pouvoir, si localement l'Europe a perdu son pouvoir, c'est vrai que nous risquons d'être entraînés dans une guerre froide sans le vouloir.
Moi, je ne crois pas
et sans le savoir.
Froide, je dirai pourquoi.
Et vous direz pourquoi après la publicité, parce que déjà on est en train de m'engueuler. A tout de suite avec les grandes voix.
10h, 11h.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney, on était en train d'évoquer le dossier des sous-marins. Les sous-marins qui nous passent sous le nez. Catherine Ney, vous vouliez réagir?
Oui, mais il faut aussi se demander le virement de pourquoi l'Australie a viré. C'est que depuis 2 ans, il se passe quand même dans les rapports entre l'Australie et la Chine quelque chose de crucial, c'est-à-dire que la Chine était le plus gros client de l'Australie. L'Australie lui envoyait du charbon, exportait du charbon, de l'orge, il y avait les touristes, il y avait énormément de choses, c'est son plus gros client. Et depuis que le Premier ministre a osé dire avec beaucoup d'indépendance qu'il fallait regarder quelles étaient éventuellement les responsabilités de la Chine sur l'histoire du Covid. Et peut-être, elle a repris qu'il fallait une étude indépendante, puisque l'OMS en était revenu en disant non, les Chinois sont absolus. Lui, il a dit faudrait une enquête indépendante.
L'OMS est revenu, ils n'ont pas pu vraiment investiguer.
Évidemment, puisqu'ils étaient dans les mains des Chinois. Bon, mais très bien. Oui. En tout cas, il faudrait une enquête indépendante. Et ça, les Chinois l'ont puni. Et là, ils ont vraiment unilatéralement vraiment supprimé toutes les importations chinoises. Il y a par exemple sur les langoustes qui étaient arrivées sur l'aéroport de Shanghai, un avion entier ça a pourri, on n'a jamais voulu le débarquer, ils ont dû repartir, voyez, des vexations comme ça, et tout d'un coup, l'opinion australienne a très très peur des Chinois. Et avec les bateaux qui sont dans tout, c'est quand même à 6000 km de la Chine, mais quand même ils ont peur des Chinois, ils se sont dit on a besoin des Américains.
Charles Villeneuve.
Oui, non mais tout ça est vrai, mais si vous voulez, ce qui fait peur aux Australiens, mais pas seulement aux Australiens, à tous ceux qui vivent et qui habitent la zone Indo-Pacifique, qui est un très vaste territoire où se passent énormément de choses, c'est, si vous voulez, les expéditions militaires, et notamment la flotte aussi bien sous-marine nucléaire chinoise, et un nombre de frégates qui se multiplient, qui rendent d'ailleurs quasiment lilliputienne le tonnage des flottes européennes, dans les mers du Sud, et jusqu'à aller naviguer près de Taïwan, de Hong Kong, etc., etc. C'est à partir de là que la presse, notamment australienne, a commencé à parler des expéditions d'intimidation des militaires chinois. Tout à l'heure, je vous ai dit plus 423%. On a vu apparaître 2 porte-avions, d'ailleurs.
Oui.
Bon, ce n'est rien par rapport à la flotte américaine, il ne faut pas l'oublier. Il y a 14 porte-avions, dont la plupart sont nucléaires. Des 104 000 tonnes, nous avons un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, 43 000 tonnes. C'est vous dire, si vous voulez, le tonnage et la puissance américaine. Personne en Occident et dans le monde occidental ne peut se passer des Américains, pas plus la France que les autres. Dans toutes nos opérations extérieures, nous avons besoin des Américains. Mais tout à l'heure, je disais, je ne crois pas à la guerre froide pour 2 raisons. Premièrement, parce que les États-Unis se servent beaucoup en Chine pour des appareils électroniques. Et deuxièmement, les Chinois rachètent tous les bons du trésor qu'ils peuvent acheter américains. C'est eux qui rachètent la dette, en quelque sorte. Oui. Donc, une guerre froide, ça implique de se faire la guerre par territoire et pays interposés, comme on l'a fait au Vietnam, comme on l'a fait en Angola, en Afrique, ou dans d'autres, si vous voulez, continents. Donc c'est pour ça que je ne crois pas à la guerre froide. Je crois aux tensions, bien sûr, nous en vivons une, mais ce n'est pas la seule tension que nous allons vivre.
C'est votre avis, Gérard ?
Alors, écoutez, moi je crois que l'Amérique, c'est comme un paquebot, un énorme paquebot.
C'est le cas
de le
dire.
On ne peut pas le faire, oui, mais un paquebot mondial, si vous voulez. On ne peut pas le faire changer de cap
de sa route.
En quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Il y a un mouvement qui s'est amorcé au début, effectivement, du 21e siècle. Après une période où les Américains se sont dit « la guerre froide, c'est fini, la Russie, c'est foutu, l'Empire soviétique est désingué après le mur de Berlin, etc. » Pendant 10 ans ou 15 ans, ils se sont dit « on est les maîtres du monde et on n'aura plus jamais d'adversaire au niveau planétaire ». Ça a changé déjà, et je parlais d'Obama tout à l'heure, ça a commencé à changer et on se demandait dans la presse française, on disait « mais pourquoi Obama finalement s'intéresse aussi peu à l'Europe? Pourquoi est-ce qu'il regarde toujours vers le Pacifique ?» Ce regard-là a commencé à dériver à partir d'Obama et à partir effectivement, même de il y a un continuum américain, même à partir de Trump et jusqu'à Biden, la Chine est devenue une obsession américaine. Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir toujours une obsession après avoir eu l'Union soviétique? En tout cas, c'est devenu une obsession. Et dans l'opinion, dans la presse, partout, c'est et la Chine, et la Chine.
Ça avait même commencé du temps de George Bush, et ça a été arrêté à cause du 11 septembre.
Ils ont liquidé, effectivement, ce qu'ils ont pu. Ils sont partis en courant du Moyen-Orient dès qu'ils ont pu, mais ils sont revenus. Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans. Et cette alliance qu'ils sont en train de forger, cette OTAN, cette espèce de simili-OTAN du Pacifique, alors la principale défaite, c'est ça le problème, c'est que c'est l'Europe qui est en dehors, qui est larguée dans tout ça. Oui. C'est la France, bien sûr, parce que c'est le contrat français, mais c'est l'Europe. Oui. L'Europe n'a plus de voix dans cette
partie
du monde.
D'où le rôle de Londres aussi dans tout ça.
Absolument.
Michel Cotta.
Moi, je vois deux choses, deux aspects importants au fond. Pourquoi est-ce que l'Australie a rompu ce rapport, cet accord? C'est sans doute à cause du nucléaire. C'est parce que nous leur proposions des sous-marins normaux, alors
mais
que l'Amérique...
Mais c'est ce qu'ils voulaient, ils avaient demandé des sous-marins normaux.
Ils avaient demandé ça, pardon, une seconde. Ils avaient demandé ça il y a des années, mais justement, leur peur a changé dans l'intervalle. Voilà. Et leur peur a changé du côté de la Chine, et par conséquent, c'est contre la Chine qu'au fond, ils se sont dit c'est mieux d'avoir du nucléaire. Ça pose quand même un problème de discrimination.
Mais non, mais la France était tout à fait capable de faire des sous-marins nucléaires.
Nous sommes capables, mais il y a un accord de principe entre les 6 puissances nucléaires mondiales. C'est de ne pas aider à la prolifération nucléaire.
On a aidé à la prolifération, justement.
De fournir 8 sous-marins à propulsion nucléaire auront cet accord de principe.
Non, mais
c'est assez important comme principe. Mais de la même manière, nous sommes en quelque sorte boutés de la zone stratégique. Il y a des évolutions stratégiques aussi et tactiques de la zone Indo-Pacifique. Mais nous avons un allié avec lequel nous travaillons. L'un nous a lâché l'Australie, faisait partie de l'axe sur lequel travaillait la diplomatie française. C'est l'Inde. C'est l'Inde à qui nous fournissons du matériel militaire, des avions, du Rafale et des réacteurs nucléaires civils.
C'est pour ça que
l'alliance France-Inde.
Je voulais finir, parce que j'avais dit qu'il y avait deux choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne peut pas, l'Europe ne peut pas, et la France ne peut pas être exclue de ce périmètre-là. Et par conséquent, effectivement, notre seul allié maintenant, c'est l'Inde, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que tu as dit.
Et dernière chose, c'est que cet accord veut dire aussi que l'Australie se met sous la dépendance américaine parce que ses sous-marins nucléaires auront un commandement américain et des mariniers américains.
Vous restez avec nous, c'est Europe 1. Les Grandes Voix reviennent dans un instant.
Pierre de Villeneuve.
Avec à mes côtés, bien sûr, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney. Éric Zemmour était hier à Toulon, non pas en rade de Toulon, on quitte les sous-marins un instant, à Toulon, puisque aujourd'hui il part à Nice pour présenter son livre. Parterre choisi, place réservée, 800 maximum. Et toujours pas de fumée blanche. Zemmour se donne le temps. Alors pour l'heure, le slogan, c'est qu'il est candidat au débat.
Je choisis toujours mes moments et c'est à moi de choisir le moment, à moi de décider. On a mes consciences, c'est pas une décision facile, vous savez. Et après, j'annoncerai, vous inquiétez pas, je le dirai. L'échéance, il n'y a pas de date précise, mais ça sera avant avril.
Voilà, Zemmour qui laisse planer le suspense de cette candidature avant avril. Bon, comme ça, au moins, on est...
Il dit que ça le sait. Il a l'honnêteté de dire que c'est dans son intérêt de laisser planer le suspense.
Exactement.
Alors, au moins, il dit la vérité. Bien sûr, c'est dans son intérêt, puisqu'il parle, on parle de lui, il devient le centre du débat. Mais la vraie question aujourd'hui, où un sondage l'a donné, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais où un sondage l'a mis à 10%, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'est pas candidat et qui sort un peu de nulle part par rapport au monde politique. Donc, est-ce qu'il sera celui qui fait, vous avez utilisé le mot, turbuler le système? Il semble, et j'ai assez tendance à reprendre. J'ai écouté Manuel Valls.
Il y a un copyright. Hein.
Récemment, bon. Il y a 2-3 jours, Manuel Valls parlant de Zemmour. Et on lui a dit, mais vous croyez quand même pas que Zemmour peut devenir président de la République. Et Valls a eu cette parole, aujourd'hui, tout est possible. Mmh. Et ajoutant, il peut être, et quelqu'un a ajouté derrière lui, il peut être l'artificier qui fait exploser le système. Il y a un peu de ça, si vous voulez. Oui. Il y a un peu de ça dans Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi. Et ça, j'avais utilisé cette expression, parce que je crois que ça correspond. On parle du pour les avocats, par exemple, pour le procès qui se déroule actuellement sur le terrorisme, on parle d'un système d'avocats de rupture, en parlant de Vergès et d'une époque, c'est-à-dire de prendre le contre-pied de tout ce qui se fait pour faire autrement. Eh bien, il me semble que dans l'élection présidentielle qui se déroulera dans 7 mois, et à ce niveau de la campagne, à ce moment de la campagne, Zemmour est le candidat de la stratégie de la rupture.
En 2017, vous auriez dit qu'il était disruptif.
Il est, oui, mais c'est la rupture, aujourd'hui. Et or, si on remonte un peu dans l'histoire politique, il y a guère que Jean-Marie Le Pen, je dis bien Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, qui en 4... Oui, mais il faut le dire aux gens parce qu'il y a des jeunes qui comprennent moins. Et Le Pen, pour eux, c'est Marine. Donc, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen en 95 et en 2002 a été... Il a été en 95 à 14%, je crois, et en 2002, il a été au deuxième tour.
Deuxième tour, bien sûr.
Il a été, mais il l'a été parce qu'il était, à l'époque, perçu par toute la classe politique comme le candidat de la rupture, c'est-à-dire différent de tous les autres, qui mettait les pieds dans le plat, qui était cash. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, d'une certaine manière, l'intérêt de Zemmour, c'est ce côté cash, disruptif, candidat de la rupture.
D'accord, Michel Cotta.
Non, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi, je vois ça. Ce qui me frappe, c'est sa jubilation dans ses photos. On voit des photos sombres, au contraire, avec des yeux qui rient, qui sourient. Il est très content. Moi, je le connais depuis très longtemps. Nous le connaissons tous depuis très longtemps. J'ai même assisté à ses débuts.
Et vous avez lu son livre.
J'ai lu son livre. Mais ce qui est intéressant,
vous riez.
C'est que, au fond, il rêvait de ça. Il rêvait de s'imposer en polémiste, mais en polémiste politique, et de prendre ce poids qu'il a et qu'on lui donne. Alors, il y a quand même.
Mais c'est quoi la jubilation ? Parce que là, vous êtes en train de nous dire que.
Ah, mais c'est l'emmerde tout le monde.
C'est ça.
Voilà. Alors, justement, la question est celle-là. À qui prend-il des voix s'il a plus de 10%?
Oui, non, mais la vraie question, c'est qui a peur de Zemmour ?
Voilà. Qui a peur
dans
de
le monde
Zemmour
politique ?
À qui donc ?
Tout le monde.
On se dit d'emblée, ah ben. C'est sûrement d'abord à Marine Le Pen qu'il en prendra. Après tout, il dit qu'elle n'est pas capable de... Mais je crois, pas seulement, qu'elle peut en trouver du côté d'une certaine droite républicaine qui trouve que finalement Marine Le Pen est un peu molle et que Zemmour dit tout haut ce qu'elle pense tout bas. Je crois qu'il peut aussi en tomber. Je crois qu'il fait mal à tout le monde en réalité. Et d'ailleurs, quand on a 10 à 12% des voix, on fait mal à tout le monde.
Qui a peur de Zemmour ? Catherine Ney.
Bon, moi, je n'ai pas peur de Zemmour, mais... Non, mais moi, je voulais vous dire autre chose. C'est qu'il dit... il était déjà un polémiste installé. Bon, oui. Et puis tout d'un coup, il dit « Ah, mais mon fils m'a dit... » Oui. « Ah, écoute, arrête de dire, il faut faire. » Alors, parce que le fils le dit, il se lance. Bon. Mais surtout, il dit dans le point... Parce que vous dites, là, tu rappelles Jean-Marie Le Pen. Mais il ne veut pas du tout être le fils de Jean-Marie Le Pen. Il dit « Moi, je suis Trump. » Il dit « Moi, je me compare à Trump ». Alors, moi, je veux bien qu'il se compare à Trump à cause, justement, d'avoir été une cassure et tout ça. Mais
il manque quelques milliards.
Non, mais c'est pas ça. C'est que vous voyez Trump, ce qui était quand même une masse physique incroyable.
Financière aussi.
Une masse financière. Il a surtout battu tous les candidats républicains à la primaire. Lui, il était dans une primaire, il est devenu le patron du Parti républicain. Excusez du peu. Ce que lui n'aura pas. Il avait de l'argent. Il avait un langage avec 6 mots ou 7 mots, un vocabulaire très restreint. Alors, se comparer à lui, alors que vous voyez ce physique nerveux, ces grands yeux que Michel vient de décrire comme ça, et cette jubilation à l'être, mais lui, c'est un cérébral. Tout se passe là. C'est
et
pas
donc
une puissance physique. Alors moi, je pense qu'il n'est pas un Le Pen, mais il est ce que Finkielkraut appelle, il dit, la vengeance contre la pensée unique. Les gens en ont marre, voilà.
on en a marre d'avoir entendu toujours le même chose, la même pensée.
Ce qu'on appelle là, aux États-Unis l'establishment, un peu.
C'est ça que j'appelle
la stratégie de rupture.
Et effectivement, quand tu
le prends dans le détail, tu as très bien décrit, il n'a pas le, sûrement, pour beaucoup de gens, il n'a pas le physique d'un président. Pour beaucoup d'autres,
ça a déjà été entendu sur d'autres.
Non, mais il y a plein de critères sur lesquels on dit il n'a pas ci, il n'a pas ça.
On va arrêter sur
le physique. Mais il a quelque chose qui fait pourquoi le mot Trump, pourquoi ça fait tilt quand on a dit qu'on le compare, qu'il se comparé à Trump, c'est que Trump, c'est celui qui a, pour les gens, c'est l'homme qui a eu le courage de casser la baraque. De casser la baraque et de se faire élire.
Non mais il pose. Quand Gérard parle de
Charles,
la stratégie...
Et après on passe quand, pub, excusez-moi.
Quand Gérard parle de la stratégie de rupture de Jacques Vergès, avocat, c'est par rapport à la stratégie de connivence, par rapport au juge, de tous les avocats quasiment, de la corporation des avocats. Bon. Et lui... Il faut reconnaître, à l'exception évidemment des journalistes, surtout du service public qui n'arrêtent pas de lui tailler des costards et d'aller le chercher, il n'y a pas que les journalistes de service public, beaucoup d'autres aussi se joignent, bon, peu importe, mais il fait peur à un certain nombre, y compris à l'Élysée, y compris chez Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen a perdu sa dimension anti-système, et donc y compris chez les Républicains. Bien évidemment, il gratte partout. Dans le sondage auquel a fait allusion de l'IFOP, Gérard, 10 points, il prend partout. Il prend plutôt en majorité chez Marine Le Pen, mais il prend aussi chez les Républicains. Et donc, partant de là, il peut priver Marine Le Pen, notamment, d'un second tour. Et c'est ce qui inquiète notamment l'état-major politique
du RN avec Sébastien Chenu qui hier disait Zemmour devrait donner un coup de main à Marine Le Pen. On continue le débat juste après une première pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Et vous les connaissez, les grandes voix d'Europe 1. C'est Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On est en train de parler d'Éric Zemmour, Michel.
Alors, ce qui est drôle, c'est paradoxalement cette... possibilité d'être disruptif et de rentrer dans un jeu en bousculant tout, au fond, qu'est-ce qu'il a inauguré, ce jeu-là ? C'est Emmanuel Macron en 2017.
Et maintenant, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot disruptif.
Beaucoup de gens se disent, après tout, beaucoup de gens, enfin, en tout cas, Éric Zemmour se dit, après tout, il est parti, Emmanuel Macron, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'influence politique, sans parti, et contre le président de la République, et ça a marché. Et bien moi, après tout... je peux faire la même chose. Et je crois que c'est une inspiration qui restera longtemps. On a dit, ah, mais il faut un parti, des légions pour être élu. Eh bien, peut-être que dans le monde actuel, où justement les partis sont en cause et l'influence politique aussi, on se dit, ah, quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui débouche, il a des chances.
C'est pas la première fois qu'un candidat fait peur à tous les autres, hein.
Ah ben non, mais je rappelle que Jean-Pierre Chevènement avait en 2002 14 à 16% des voix avant.
Mais il faisait peur à la gauche, avant, pas à tout le monde.
À une époque, Georges Marchais, qui avait des scores absolument incroyables dans les sondages, faisait peur aussi
à la gauche.
Parce
que Zemmour, il fait peur à tout le monde.
Je parle de Georges Marchais parce que c'est vrai qu'on regarde les nouvelles générations, on regarde avec amusement les débats avec Jean-Pierre Elkabbach où il y a plein de citations, voilà. Mais en réalité, c'est un candidat qui faisait peur, et même aux journalistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était là parce qu'il avait un potentiel électoral immense.
Ah oui, moi j'avais peur.
Mais Zemmour, il impose.
Voilà. Quand j'interviewais Marchais, j'avais peur, moi.
Moi, ça me faisait plutôt rire. Il était impressionnant quand même. Oui. Zemmour, il impose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a imposé aujourd'hui ? Il a imposé pratiquement à tous les candidats, sur tous les plateaux possibles et imaginables, les débats sur l'immigration et sur l'insécurité. Alors que c'était des thèmes qui étaient des thèmes qui avaient été effectivement amenés sur la table par Jean-Marie Le Pen et qui étaient le fond de sauce du Front National. Lui, il a renouvelé ces débats et il y ajoute ce que j'appelle le côté effectivement de rupture. Quand il parle des prénoms, il sait très bien le débat sur les prénoms, oui. Et c'est très bien que ça va faire hurler.
Ça fait hurler.
Des centaines de milliers de gens, ne serait-ce que tous ceux qui ont un prénom
Gérald Darmanin,
à consonance étrangère, etc.
Oui, il avait même dit que Sarkozy n'aurait pas dû appeler sa fille Julia.
Mais, voilà. Mais ça fait rien. De la même manière, quand il dit, c'est pas innocent, quand il dit « moi je suis philosophiquement pour la peine de mort », ça veut pas dire qu'il proposera dans son programme le rétablissement de la peine de mort, mais dans la tête d'un certain nombre de Français, ils entendent « ah ben oui, quand je vois tous ces gens
Mais ça veut dire quoi? C'est des coups de poker?
C'est pas des coups de poker,
comme on dit au poker.
Non, c'est pas du bluff, ça veut dire la construction de quelque chose qui est basé en partie sur du rationnel, l'insécurité, c'est pas un mythe, et sur une part d'irrationnel, c'est-à-dire de retour à des choses. Alors,
Il amène des sujets qui sont sur la table par la droite traditionnelle et également par la République
mais il
en Marche,
renouvelle.
Parce qu'il y a une loi, sécurité en ce moment avec Gérald Darmanin.
Il les amène, mais il les renouvelle.
Donc il les banalise.
Non, il lève les derniers tabous sur ces sujets-là. Oui. Il dit sans arrêt, il faut virer tous ceux qui sont étrangers, qui sont emprisonnés, etc. Et il amène l'opinion.
Pardon, les solutions. Effectivement, on entend tout ça et il le fait très bien à sa manière. Et en plus, le contexte est quand même formidable pour lui. Hein. Il a l'Afghanistan, le procès du Bataclan, tout ça qui se joue en ce moment.
Il y a le terreau du terrorisme.
Donc, il y a vraiment le terreau du terrorisme. Moyennant quoi, quand on arrive à ses conclusions et à ses remèdes, on trouve les remèdes qui sont partout. On trouve les remèdes. Ils ne turbulent pas. Alors, s'ils turbulent le monde politique, ils ne turbulent pas les remèdes au terrorisme, voilà, et ni à l'insécurité.
Ben on verra quand il proposera les solutions, puisqu'il les
mais
a
là,
pas...
Mais là, il les a à la fin de son livre, il y en a quand même quelques-unes.
Il fait d'autant plus turbuler le système que quand tu vois quand même une grande famille politique comme la droite, qui n'est plus qu'un rassemblement de syndicats d'élus locaux, qui est incapable, alors que ça patauge de tous les côtés dans ce grand parti, incapable de désigner son candidat, et il pose les vraies questions que ce parti n'a pas osé poser dans les termes où il les pose.
Il y a trop de packaging, vous voulez dire il y a
Mais bien
trop
sûr,
de...
mais évidemment, il va directement au but. Il a changé le langage de ces questions-là. Oui. Et par-dessus le marché, quand tu vois le président de la République qui va à Marseille pour vider les poches de l'État qui sont déjà vides d'1,3 milliard
pour de l'équipement,
pour donner à qui on ne sait même pas flécher l'argent qu'on va donner de toute façon, il n'y a qu'à lire les rapports de la commission, des commissions, de toute façon, de la Cour des comptes. On n'a même pas retrouvé la trace des 3 milliards que Jean-Marc Ayrault a décidé de donner de toute façon à la région. Et donc, de la même manière, évidemment, lui pose le problème de l'insécurité en des termes extrêmement directs. Que ne n'osent pas faire la plupart des partis classiques.
Dernière pause
sans solution.
Dans le débat des grandes voix. Et on se retrouve dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Et avec les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on évoque les conclusions du Beauvau de la sécurité. Ce mardi 14 septembre à Roubaix, le président Macron a annoncé donc toute une série de mesures pour permettre à la police et à la gendarmerie de prendre le virage du service rendu aux citoyens. Simplification de la conduite des enquêtes, pré-plainte en ligne, doublement des effectifs policiers sur le terrain sur 10 ans, amélioration de l'équipement des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on garde comme conclusion de tout ça, Charles Villeneuve?
Que les syndicats de police sortent grands vainqueurs des Beauvau de la sécurité, puisque pratiquement toutes les revendications des syndicats de police ont été acceptées et traduites par le discours à Roubaix du président de la République. Mais Macron n'est pas perdant dans cette affaire. Il faut dire que sur 18 mesures, 10 ont été puisées dans les rapports d'enquête du Sénat, notamment la loi de programmation qui correspond à la loi de programmation militaire, la loi de programmation sur les forces de sécurité, les bleus dans la rue, c'est-à-dire plus de policiers, plus de gendarmes. Actuellement, vous avez 35% seulement de policiers dans la rue et vous avez 45% de gendarmes. Ça doit monter au minimum à 75%, sauf qu'ils sont dans les bureaux. Et la réforme du système pénal est très importante. Parce que c'est aujourd'hui indéchiffrable.
Catherine Ney.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous saviez, il y avait eu le grand débat entre l'affrontement même, entre Gérald Darmanin qui disait « la violence augmente » et le ministre de la Justice qui avait dit « non, c'est un sentiment ». Bon. Or, dans son discours, là, le président a dit que oui, la violence, il y a un retour de la violence et que ce serait céder au déni. Il serait même inadmissible que cette situation que je décris serait un sentiment. Ça veut dire que là, c'est pas un sentiment, il le reconnaît. Alors qu'il y a plusieurs mois, il avait dit « Ah, on a cherché des Kamasutras pour dire quelle était la violence ». Eh bien là, dans le Kamasutra, il choisit Darmanin. Voilà, c'est Darmanin qui a raison, la violence augmente. Et oui. Moi, je trouve
alors,
que
je suis pas
à
du
la
tout
veille...
d'accord. Je suis pas du tout Gérard d'accord avec toi, parce que dans la même phrase, dans le même discours, il dénonce quoi, Monsieur Macron ? Il dénonce la tyrannie des faits divers, montrant en fait là qu'il reprend quelque part dans sa tête le même thème de Dupond-Moretti, c'est-à-dire l'insécurité, c'est avant tout un sentiment d'insécurité, ce n'est pas une réalité. Quand on parle de la tyrannie des faits divers...
Voilà le en même temps Macron.
Donc en fait, ça reste la sécurité reste l'angle mort du macronisme. Il a mis 4 ans pour découvrir le séparatisme. Il découvre en 5e année et ça reste un demi-déni. Et j'en dis qu'un mot, un demi-déni, parce que quand on ne fait pas le lien entre l'immigration et la sécurité, ce qu'il se refuse à faire, eh bien, on reste dans une forme de déni.
Michel Cotta.
On peut dire qu'en effet, ça vient un peu tard, on est d'accord. Ça vient au bout de 3-4 ans, alors que beaucoup de gens déjà lui demandaient de poser des questions de sécurité. Il reste que, je suis assez d'accord avec Charles Villeneuve, il n'en est pas sorti, il est sorti de ce Beauvau par le haut, il aurait pu vraiment en sortir plus amoindri, il en est sorti comme il en a pu, mais finalement, au bout du compte, quand on voit les programmes des autres, de Ciotti ou de Bertrand, s'il y avait une solution miracle, y compris sur l'immigration, on le saurait.
C'est quand même lui le sortant.
On le saurait. Hein. Bon, et moi, je crois que 20 000 places de prison de plus, ça n'ajoute rien. En revanche,
surtout quand on en a fait 1600 pendant 5 ans.
Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui est important.
C'est ça qui est important. C'est pas tellement ça qui est important parce que la prison ça coûte cher, etc. C'est des gens qu'il faut éliminer. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait. Alors vous allez me dire que de ce point de vue-là, je suis très proche de la droite, mais je suis en effet.
Ça c'est un scoop.
Je suis en effet pour éliminer les étrangers qui ont été délictueux. Je suis en effet pour ça.
Il y en a 24% dans les prisons françaises.
On résoudrait le problème des prisons.
Comment on fait ? Oui, mais ça non plus on ne sait pas faire. Parce qu'on ne sait pas où les envoyer. Aucun pays
ne sait pas non plus faire 20 000 places de prison en 5 minutes.
Non, mais il a admis quand même quelque chose de très important. Pour l'opinion publique, parce que qui sont les victimes, évidemment, de l'insécurité ? Ce sont d'abord les Français. Hein. Et il a admis une chose, c'est que 70% des policiers sont dans les bureaux aujourd'hui, et pas sur le terrain. Et, sauf qu'il faudra les mettre sur le terrain, et c'est là où la balle est dans le camp du garde des Sceaux, et il faut qu'il revoie complètement le code pénal. C'est-à-dire que sur ce plan-là, les policiers et les gendarmes ont gagné la partie. On ne peut plus travailler, de toute façon, par rapport à ce que stipule le code pénal et par rapport à l'administration qui a envahi tous les services de sécurité.
Mais le mois d'avril approche, alors quel sera le bilan sur ce thème-là en particulier ?
Le bilan restera quand
Michel
même
Cotta.
la fin de Beauvau. Il sera évidemment critiqué en disant que ça va pas assez loin, etc. Mais entre nous, ce que tu viens de dire sur les policiers qui sont derrière leur bureau alors qu'il ferait mieux d'être ailleurs.
Non,
moi,
mais
j'entends
eux sont
ça.
Tout à fait
moi,
d'accord.
J'entends ça depuis 20 ans. Hein. J'entends ça depuis 20 ans. Et aucun ministre de l'Intérieur n'est jamais arrivé, finalement, à garder.
Il a même parlé du temps de travail des policiers. Il voudrait les faire travailler
Catherine,
plus. Et ça fait des années qu'on en parle.
Rappelez-vous Dominique de
Villepin. Les syndicats aussi.
Rappelez-vous Dominique de Villepin, à qui quelqu'un avait dit mais les policiers ne travaillent pas assez. Il est monté le lendemain à la tribune pour dire que les policiers travaillaient trop. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un vrai problème. S'il y avait des solutions miracles,
oui, mais Michel,
on les aurait invités, on les aurait inventées.
Quand tu dis que les prisons n'est pas la solution, quand je vois, j'ai dit le chiffre, 1600 places en 5 ans, on peut faire, on peut, dans un pays comme la France, on peut faire en 5 ans 10 000 places de prison. Ou alors, vraiment, c'est plus la France. C'est une volonté politique. Le gouvernement, les gouvernements Macron n'ont pas cru et n'ont pas voulu, parce qu'ils ont pleuté la gauche sur ces sujets-là. Ils ont voulu toujours aller dans le sens de la gauche. Ils n'ont pas voulu.
Parce que la prison n'est pas la seule solution. Non, la prison n'est pas la seule solution. Et notamment pas au terrorisme.
Merci à vous, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Aujourd'hui, on va s'intéresser aux spécialités régionales et parfois vous allez entendre le nom de régional que le nom. Ce sera notre dossier du jour avec la cuisine portugaise également. Charlotte Langrand est présente, Olivier Pouls également. Et nous serons avec Imani, la chanteuse, et Bonne Vivante. A tout de suite.
A tout de suite.